Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne, Sophie Peters.
Et bienvenue dans votre émission, cette libre antenne qui démarre, c'est vrai, un peu tardivement. Mais ici, c'est vous qui faites le débat, celui de vos vies, de vos questionnements, de vos déceptions, mais aussi de vos espoirs, puisqu'on parle d'espoir au niveau de l'Europe. Et bien, parlons aussi, après tout, de vos espoirs à vous. Au 39-21, Florian et Thomas accueillent ce soir vos appels, tandis que Philippe Chartier réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 739-21, en commençant votre texto par le mot « nuit », écrit en majuscule, ou envoyez un mail à l'adresse libreantenne@europa.fr ou la page Facebook Sophie Peters. 39-21, nous sommes plus que jamais à votre écoute. Europe 1. Europe 1. Bonsoir Charles.
Bonsoir. Bienvenue. Sophie. Bienvenue, merci beaucoup de m'accueillir à votre antenne.
Vous vouliez nous parler de votre maman, je crois, ce soir. Vous êtes inquiet pour votre maman. Oui, oui. Oh,
terriblement, je comprends pas l'attitude des médecins. Elle fait de la névralgie faciale.
Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Vous pouvez nous expliquer, Charles?
Oui. Ouais. C'est le neurone trijumeau.
Oui.
Qui, on ne sait pas pourquoi, déconnecte et chatouille le muscle de la joue. Et c'est des hurlements, quoi.
Ah, et c'est excessivement douloureux, ouais.
C'est très, très douloureux. Nous avons malheureusement... Ma mère a 95 ans.
Oui.
Mais c'était une femme qui est toujours très autonome, tout ça et tout, qui va bien, à part cette maladie, quoi. Mmh. Donc, nous avons été obligés de la mettre en maison de retraite. Mmh. Et même les infirmières que j'ai eues au téléphone... elles sont désespérées complètement, elles ne savent pas quoi faire. On est au top du haut de ce qu'elles peuvent avoir en traitement.
Ah oui, y compris de tout ce qui est antalgique, contre tout, la douleur, tout, d'accord.
Tout. Même la morphine, on a stoppé parce que ça ne va plus. Donc les médecins ne veulent pas aller au-delà parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques. Mais bon, ma mère souffre terriblement. C'est aujourd'hui, j'ai pas pu y aller. Bon, j'ai des frères et sœurs qui prennent le relais, mais j'en suis rendu là. Je vais y retourner vendredi. Mais avant-hier, c'était des cris dans la chambre et tout. On lui avance le médicament plutôt que prévu à chaque fois. Mais ça la calme pas pour autant. Ça la calme et puis après, ça revient. Aujourd'hui, la psychologue m'a téléphoné, elle m'a dit qu'elle était en crise toute la journée et ça s'est calmé vers 17h. D'accord. Alors, nous avons appelé les médecins, ont appelé les services en tout douleur à Bordeaux qui sont débordés. Et l'hôpital la prendra peut-être, le service en tout douleur, la semaine prochaine, quoi. Mais apparemment, ce qui a été dit, ils ne feront pas guère plus que le traitement qu'elle a. Mais on ne peut pas laisser ma mère souffrir dans tel état, c'est pas possible, quoi. Donc, si je me suis permis de vous appeler, à vous, Sophie, et tous les gens qui nous écoutent, c'est pour savoir s'il y a des témoignages. Est-ce que des gens ont rencontré ce genre de maladie? Quelle a été la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que on envisage, pour maman, le pire, quoi. Vraiment.
C'est-à-dire, quand vous dites le pire, qu'elle succombe à ces douleurs extrêmes, en fait, c'est ça?
On a dit au médecin, écoutez, tentez le tout pour le tout, mais qu'elle ne souffre pas. Quoi qu'il arrive, tentez le tout pour le tout, quoi. Le problème, c'est que les médecins, bon, ils n'osent pas trop, quoi. Donc, voilà. Et nous, on ne peut pas la voir comme ça. Ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser les gens hurler de telle façon comme ça, quoi.
Ouais, je comprends.
Elle est quand même à 37 kilos maintenant.
Voilà. Oui, et c'est un lien. Et c'est un lien, le fait, parce qu'elle a du mal à s'alimenter.
Parce que oui. La fatigue, la peur, elle s'y dit si je mange, je bouge la joue. Donc elle a peur de la qui
c'est
qu'elle a. Voilà. Si elle parle, voilà. Donc et nous, quand on arrive à la chambre,
elle veut tenter en fait, si je vous suis, Charles, d'anticiper ces douleurs qui arrivent sans crier gare. Elle veut tenter de contrôler quelque chose ou de les anticiper en essayant le moindre, enfin en essayant de diminuer les mouvements de sa joue.
Tout à fait, oui.
Et alors, est-ce que vous pourriez peut-être, parce que j'ai l'impression qu'elle a toute sa tête, lui parler? Pour lui dire justement que malheureusement le principe de ce qu'elle a, c'est que c'est incontrôlable et qu'en voulant le contrôler, elle s'empêche aussi des bons moments entre guillemets de vie, c'est-à-dire vous parler, se nourrir. Si elle essayait de lâcher un petit peu de contrôle, elle, d'une certaine manière, peut-être qu'elle souffrirait moins, que ce serait moins pénible pour elle à vivre que d'être tout le temps en résistance, en défense, en signal, de dire « ça va arriver, donc j'essaye d'empêcher que ça arrive ». Parce que manifestement, ce n'est pas le fait de ne pas bouger la joue qui va faire que ça va éviter que ça se déclenche. D'accord.
Qu'elle mange ou qu'elle me parle, la douleur vient quand même. C'est pas, mais elle pense que le fait de elle a peur, je ne vais pas manger.
Mais je comprends.
Là, ça s'est calmé.
Mais
voilà,
si vous pouviez la rassurer et lui parler de ça, pour qu'elle puisse quand même se ressourcer dans des moments agréables qui pourraient être de se nourrir ou de parler avec vous.
Alors, c'est
une hypothèse que je vous soumets. Oui,
mais vous avez entièrement raison. Je reste le plus tard possible avec elle parce que ça l'aide d'y avoir quelqu'un. Parce qu'à ce moment, elle ne descend pas au restaurant, en bas, elle mange en chambre. Ouais. Donc, je reste avec elle pour l'accompagner. Ça l'aide un peu, comme ça et tout. Mais après, voilà, après, je la mets au lit, et puis la nuit, parfois, reste catastrophique. Toute la nuit, les infirmiers de nuit et de jour sont complètement désespérés. J'ai une infirmière qui a craqué devant moi, qui s'est mis à pleurer. Excusez-moi, mais je sais pas quoi faire, votre maman. Je lui ai dit, écoutez, c'est pas grave, je comprends. Ça prouve comment vous avez qu'un cœur que vous pouvez comprendre. Oui, mais là, je peux pas. Je lui ai donné le médicament. Là, je pourrais plus lui en donner qu'avant 1h du matin.
Et ça dure, c'est bref ou c'est long, cette douleur quand ça la prend?
C'est long, ça dure, ça peut durer toute la journée.
Ah, la douleur
peut durer toute la journée.
Ah, mais c'est pouvant. Ah oui, elle peut rester dans cette douleur.
Alors, je vais essayer de vous imiter ce que c'est. Donc, elle se tient la main sur la joue. Et puis, c'est... Voilà. Toute la journée, c'est ça. Toute la journée, c'est ça.
Et donc, on ne peut pas lui parler. Elle n'est pas forcément réceptive. Et il n'y a pas des injections, quelque chose qui est possible pour la soulager, en microchirurgie ou des choses comme ça?
Le médecin, il lui dit, si je lui fais par injection les mêmes traitements, ça sera exactement pareil. Ils sont sont démoralisants, quoi. Ils n'ont pas très envie d'aller au-delà parce qu'ils n'ont pas la solution. À Paris, maintenant, ils veulent que, nous, on est d'accord, qu'ils l'amènent en service anti-douleur et que là-bas, ils fassent le nécessaire.
Bien.
Mais je suis sûr que d'autres médecins oseraient aller au-delà.
Alors,
et nous, c'est ce qu'on voudrait.
Ouais. Vous avez été écouté, Charles, parce qu'il y a des auditeurs qui apportent des conseils. Il y a Isabelle qui dit « Je travaille dans le milieu médical, effectivement, cette pathologie fait énormément souffrir. Je connais des patients qui se mettent sous oxygène avec un masque haute concentration, mais ça se fait sous contrôle médical, bien sûr. » Et effectivement, une autre auditrice envoie un message pour dire « Est-ce que vous leur avez parlé d'oxygène ? Parce que ça a fonctionné chez ma sœur. » Et puis, il y a Feuille d'Érable qui dit que des séances d'hypnose pourraient être une aide à la douleur. On sait que l'hypnose est pratiquée dans la chirurgie. Enfin, voilà, d'autres auditeurs parlent d'acupuncture et d'hypnose. Bon, ce sont des voies peut-être, mais l'oxygène, il y a deux auditeurs qui en parlent, hein, disant que ça fonctionnait.
D'accord.
Vous en avez entendu parler ou pas, Charles? Non.
Elle avait été, quand elle était hospitalisée, ils lui ont mis de l'oxygène, effectivement.
Ça l'a
calmée.
D'accord. On fait une toute petite pause, hein, Charles, et on se retrouve juste après. À tout de suite.
D'accord, merci Sophie.
La Libre Antenne, tous les jours, dès 22h30, sur Europe 1. Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne, Sophie Peters.
Et un seul numéro pour nous joindre dans cette libre antenne, si vous voulez nous y rejoindre, le 39-21, Florian et Thomas, qui sont à votre écoute. Vous pouvez bien entendu nous joindre également par SMS 739-21, précédé du mot « nuit », sur la page Facebook Sophie Peters, et puis par mail libreantenne@europe1.fr. 39-21, nous attendons vos appels et nous sommes heureux de vous accueillir dans cette émission. Alors Charles, des messages qui sont arrivés pour vous pendant les informations. Il y a Mado qui dit « Ma maman a eu ces horribles douleurs et on l'a soulagée en brûlant le nerf qui est lié à cette douleur. Elle n'en a plus jamais eu. » Donc, je ne sais pas si pour vous, ça peut être une option. Et puis Béatrice qui dit « Je suggère à Charles de prendre contact avec le centre antidouleur de l'hôpital Lariboisière à Paris. » Elle cite même le professeur, professeur Séry. « J'ai eu récemment l'occasion de discuter avec plusieurs patients qui souffraient de cette pathologie, la névralgie faciale. Et ces patients étaient améliorés dans ce centre. Pensée chaleureuse pour Charles et sa maman, dit Béatrice. »
C'est gentil, ça.
Alors, je ne sais pas si vous êtes loin ou pas de Paris, ou si vous est possible...
Moi, je suis sur Bordeaux. Maman habitait à Montpellier, en région de Montpellier. Et donc, nous l'avons fait venir à Bordeaux parce que toute seule, elle ne pouvait plus. La clinique où elle avait été hospitalisée, ils n'ont pas réussi. Ils l'ont transférée à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils ont réussi à la calmer un petit peu. Et puis, les médecins ont dit, là, il ne faut plus qu'elle rentre chez elle. Il ne faut plus qu'elle reste toute seule, votre maman. Ce n'est pas possible. Donc, on a vite... ça a été un hasard qu'on ait trouvé une maison de retraite en région bordelaise où l'équipe et les psychologues sont vraiment très, très disponible, très à l'écoute.
D'accord.
Et tout. Il n'y a rien à dire de ce côté-là, à part que, ils n'arrivent pas à la... Je vais prendre toutes les nouvelles que j'ai eues grâce à vous ce soir, en parler à mes frères et sœurs. Il y avait des médecins pour voir, pour pratiquer par rapport à l'oxygène, et puis contacter la région parisienne pour pouvoir trouver une solution, parce que ce n'est pas possible de laisser ma mère comme ça. Quoi.
Ouais,
ça devient un truc de dingue.
Oui, ouais, absolument, Charles. Oui, parce que toutes les auditeurs réagissent en disant qu'effectivement cette douleur est difficile à soulager car très complexe, dit Marc. Lui par exemple, parle d'insuline en intraveineuse ou de, mais peut-être il faut tenter sans doute d'autres voies. En tout cas. Ce que disent les auditeurs en ce qui concerne l'oxygène, peut-être l'hypnose ou l'acupuncture. L'acupuncture aussi, peut-être peut l'aider.
Oui, pourquoi pas. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle a quand même été suivie, ma maman, par un neurologue qui lui a mis ce qu'il a mis sous tigrétol, l'aroxyl, topagil et tout, qui l'a revue. Et la seule chose, à 37 kilos, elle lui dit, de toute façon, je ne peux pas vous donner plus.
Oui, mais sans doute que ce n'est pas la voie des médicaments, manifestement, ce que je comprends dans les messages qu'on reçoit ce soir. C'est plutôt une forme d'intervention. Il est question d'oxygène, il est question d'hypnose ou d'acupuncture. Peut-être que c'est une autre voie qu'il faut prendre. Peut-être effectivement que la voie des médicaments a atteint, sa limite concernant votre maman.
Peut-être bien, peut-être. Mmh. Écoutez, je vais dès demain me renseigner par rapport à tous ces bons renseignements que j'ai aujourd'hui, et en espérant qu'on arrivera à ne plus la voir souffrir.
Ouais, ouais. Donc il y a l'hôpital Lariboisière à Paris, Charles, et puis il y a Evelyne qui dit qu'elle a été soignée sur Nantes, au CHU Nord, et que ça lui a soulagé ses douleurs. Bon, voir si pour vous Nantes est envisageable aussi.
C'est un peu plus près, voir.
CHU Nord.
D'accord.
Ouais.
D'accord.
Bon courage, Charles, avec votre maman. Oui, bon courage
beaucoup,
à vous.
Sophie,
merci
à tous.
Merci de nous avoir appelés. Bonne nuit à vous. Au revoir.
Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39-21, 50 centimes la minute.
Bonsoir, Pascal.
Bonsoir Sophie. Donc excusez-moi, je suis un peu essoufflé parce que bon, un peu stressé aussi de passer directement à l'antenne.
Alors, avant de parler, vous allez oublier très vite.
Oui, j'espère. Avant de parler de mon cas, je voudrais déjà vous remercier pour tout ce que vous faites. Moi, j'avoue que j'ai une vie un peu compliquée depuis quelques temps. Je vais relativement souvent courir le soir en vous écoutant et rien que votre voix m'apaise. Et puis, vos propos toujours très intelligents font vraiment beaucoup de bien.
Merci Pascal.
Alors, pour parler de mon cas personnel, donc je suis marié depuis 6 ans. Et depuis 4 ans, donc, nous avons avec ma femme des jumeaux qui ont complètement changé notre vie. Et même s'il y avait quelques signes précurseurs avant la naissance des enfants, depuis la naissance des enfants, la vie, pour tout dire, est devenue complètement infernale. Elle est devenue infernale. Alors bien sûr, c'est mon interprétation, c'est par rapport au modèle de couple qu'essaye d'imposer ma femme, c'est-à-dire dans son modèle, c'est la mère avec les enfants et le père qui doit être un peu plus loin, j'ai envie de dire, pour l'intendance. Et je me suis très rapidement confronté à des problèmes du style, quand je réveille les enfants le matin, ça pose problème à ma femme, parce que pour ma femme, c'est le rôle de la mère. Quand je fais des câlins à mes enfants, là aussi, j'ai eu tout un tas de remarques en disant que c'était quand même pas normal, que j'étais pas une seconde mère. Quand je coupe les ongles à mes enfants, enfin, là aussi, ça pose problème. Enfin, il y a eu tout un tas, je pourrais écrire un bouquin là-dessus. Sur des remarques sur ma place de père qui étaient relativement blessantes en fait et qui font que j'ai eu du mal à trouver dans ce couple ma place de père. C'était infernal parce que j'ai pris en main quasiment toute l'intendance de la maison. Enfin, c'est quand mes enfants sont nés, donc on a eu des jumeaux, je faisais absolument toutes les nuits, je dirais toutes les nuits parce que ma femme était anémie à la naissance. Et malgré ça, j'avais perpétuellement des critiques, absolument aucune remarque constructive. Concernant les finances du couple, ma femme ne justifiait strictement aucune finance. Moi, j'appelais notre compte commun le puissant fond. À la naissance des enfants aussi, donc ma femme était très proche de sa sœur, elle a coupé les liaisons avec sa sœur, ce qui fait que on voyait plus les neveux, il y avait plus de famille, on reçoit jamais personne à la maison. Pour vous dire, depuis 4 ans, on n'a jamais passé un samedi soir à inviter des amis. Ça n'existe pas dans notre famille. Et ma femme a une vie secrète complètement folle. Je dis souvent que je connais beaucoup plus l'emploi du temps de mes collègues de travail que celui de ma femme. Ma femme a un emploi du temps complètement secret. Maintenant, les enfants sont à l'école, j'ai absolument aucune information. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille chercher de l'information, parce que sinon, je ne vais pas. J'ai aucune information sur les enfants de la part de ma femme. Et ce qui fait que, petit à petit, j'ai accumulé une colère que je ne connaissais pas. J'ai pas d'équivalent, c'est la première fois que ça m'arrive. Et je dois dire, depuis un an et demi, j'ai une telle colère que je refuse tout. Ça veut dire que maintenant, je refuse ce que j'appelle les comportements délirants, les comportements qui s'apparentent pour moi de la manipulation. Je refuse tout. Ça veut dire que j'ai, par exemple, j'ai repris contact avec la famille. J'ai imposé que les cousins se voient, que mes enfants puissent voir leur oncle, leur tante.
Vous confrontez, hein, vous lui faites face, ouais.
Voilà, mais par contre, je lui fais. J'ai quelque part l'impression, quand je vous entends parler, que je suis devenu quelque part le dictateur à la place du dictateur. C'est-à-dire que je ne discute plus parce que les.
Oui, c'est parce que c'est pas possible.
La vie. Voilà, c'est parce que c'est complètement insupportable. Mmh. Et je me demande dans quelle mesure je suis pas devenu le manipulateur, la personne intransigeante. Et j'avoue que ça me pose beaucoup de questions.
C'est assez touchant votre question, Pascal, parce que vous savez, c'est un peu comme dans l'imposture, quand on se demande si on est un imposteur, c'est qu'on n'est pas atteint du syndrome d'imposture. Donc quand on se demande si on est un manipulateur, c'est déjà qu'on n'est pas atteint par le syndrome, parce que le manipulateur ne se demande pas s'il en est un. Donc ça, c'est mon premier début de réponse pour ne pas vous rassurer, parce que c'est simplement réel. Maintenant, j'aimerais savoir comment elle réagit au fait que vous soyez confrontant et puis que vous preniez votre place en face d'elle, que vous l'affrontez vraiment. Comment elle réagit en face? Qu'est-ce qui se passe?
Alors maintenant, les relations sont quand même assez coupées, hein, de mon fait d'ailleurs.
Ouais.
Mais sinon, la réaction première, telle que je l'ai ressentie, c'était d'à chaque fois de me culpabiliser, de me dire ce que tu fais, c'est pas normal, tu nies. Ma femme, notamment, a des problèmes de dos. Et systématiquement, ça revenait sur ses problèmes de dos en disant tu nies ma maladie, tu fais rien pour moi. Les premières réactions, c'était de la culpabilisation. À chaque fois de me culpabiliser, de me faire croire que mon modèle était faux. Par exemple, moi je reviens très souvent, excusez-moi, par rapport à ses relations avec sa sœur. Moi je sais que j'ai beaucoup, au début, poussé ma femme à reprendre un dialogue avec sa sœur. Et à chaque fois, elle me disait, mais tu comprends pas que c'est pas moi qui bloque, tu comprends pas que c'est ma sœur qui bloque. Donc c'était toujours les autres, ça veut dire que ça correspondait pas à la réalité. Et donc c'est pour ça que j'ai dû j'ai repris l'initiative là-dessus et je me suis aperçu qu'effectivement, enfin comme je m'en doutais, que c'était ma femme qui bloquait, ma femme qui nous racontait vraiment n'importe quoi. C'est infernal à vivre, hein, comme vie, parce que ça veut dire que vous vivez avec une personne dont vous n'avez pas confiance. Et c'est insupportable. C'est insupportable pour moi d'avoir plus confiance dans mes collègues de boulot qu'en ma femme.
Oui, absolument.
Et comme je vous disais, moi je vous ai déjà entendu dire un certain nombre de fois à des femmes, mais ne vous laissez pas quand même. Ne laissez pas les gens vous parler comme ça. Enfin, vous devez être respecté. Et moi, j'ai l'impression que je suis arrivé à un niveau où je ne respecte plus ma femme.
Mais pour ne pas avoir été respecté avant, Pascal, attention, parce que j'ai l'impression que vous... Et là, il y a une forme de culpabilité qui fonctionne, que vous oubliez le contexte. Vous en faites une généralité. Oui, c'est vrai, peut-être que... Mais qu'est-ce que vous pouvez respecter de quelqu'un qui ne vous laisse pas de place et qui ne vous respecte pas? Moi, j'ai le sentiment, et c'est ce que dit Jade d'ailleurs hein, dans son message, parce qu'elle semble être un super papa bienveillant. Sa femme s'accapare leurs enfants, peut-être parce qu'elle a peur de perdre leur amour. Courage, dit Jade, mais... En tout cas, ce que vous semblez dire, et moi je trouve ça assez sain pour les enfants, c'est que là, il y a un père qui est présent. Il y a des histoires de couple comme les vôtres, Pascal, et je suis contente parce que quelquefois, peu d'hommes, voilà, il y a quelquefois moins d'hommes qui s'expriment sur cette antenne que de femmes. Et il y a des hommes qui laissent, et on le sait aussi d'histoires que les enfants racontent, où le père finalement a laissé la mère prendre possession du territoire, soit en castrant un peu le père, soit en l'occultant, soit en tout cas en le dégradant. Et c'est très complexe après pour les enfants pour grandir, parce que le père est essentiel à leur croissance. C'est lui qui permet de sortir les enfants de la fusion avec la mère et de les emmener dans la vie sociale. C'est-à-dire il les met au monde d'une autre façon. La mère les met au monde physiquement et avec beaucoup d'affection et de soins. Voilà, ça c'est les premiers temps. Et puis le père va un peu défusionner les enfants de la mère pour les mettre au monde dans la société, c'est-à-dire la place qu'ils vont occuper et de quelle façon ils vont être au monde. Donc, vous voyez que les deux sont essentiels. Et moi, je comprends que c'est le chemin que vous avez choisi, c'est-à-dire de dire, j'ai envie d'être père, j'existe en tant que père et je vais prendre ma place. Alors maintenant, vous me dites, ah oui, mais moi, je me sens quand même un peu dictateur dans cette histoire. Mais vous expliquez aussi très bien que vous n'avez pas tellement de choix que de passer... alors j'ai dit renforce en tout cas de façon, oui, un peu militaire, un peu caricaturale, parce qu'il n'y a pas de débat possible, il n'y a pas de discussion possible. C'est déjà formidable d'arriver à en faire quelque chose, hein. Vous êtes dans la responsabilité de la situation, vous apportez une réponse. Et puis, il y a l'autre chose aussi, c'est que plutôt que de partir en fuyant, parce que ça pourrait être une réponse aussi, de prendre la fuite et de laisser les enfants à la mer et de partir, c'est pas ce que vous choisissez. Vous dites, non mais moi, non seulement je reste là, mais je vais faire ma loi aussi, la loi du père. Pour les enfants, ça me paraît très sain.
Vous parlez de la loi du père, en fait. Je sais que ma femme a donné un peu la définition que vous venez de donner par rapport au père. C'est-à-dire, c'est la personne qui, justement, doit défusionner les enfants par rapport à la mère. Ça, je le comprends bien. Ça, je l'ai en moi, ça. Mais par contre, j'ai aussi d'autres choses. Oui. C'est que j'ai envie d'être, complice avec mes enfants. Je veux pas avoir, dans l'avenir, je ne veux pas avoir que de relations d'autorité avec mes enfants.
Vous avez raison. Oui, d'accord.
C'est-à-dire que j'ai envie de vivre ça.
Oui.
Donc, je ne veux pas être simplement la personne qui sépare les enfants.
Mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ou bien, Pascal. Quand on dit séparer les enfants de la mère, c'est sur un plan symbolique. C'est le fait même d'être père qui fait que vous êtes séparé, parce que l'enfant comprend à un moment donné, vers l'âge. D'ailleurs, ils ont quoi ? Ils ont 4 ans, vos jumeaux, c'est ça ? Voilà, ils ont 4 ans. Ben, ils sont en train de passer dans ce stade-là. Depuis l'âge de 3 ans, ils sont en train de comprendre qu'il y a papa et maman. Enfin, il y a maman et papa, plutôt dans ce sens-là. Et ils découvrent l'altérité grâce à vous. Et puis, ils vont rentrer dans le stade d'Oedipien, là. Ça y est, ils y arrivent pour après, à 7 ans, à l'âge de raison. Bon, bref. Du coup, quand vous me dites, j'ai envie d'être complice avec mes enfants, très beau désir, très belle envie, il n'y a pas de souci. Et un père n'est pas qu'une autorité, il peut être tout à fait une complicité. La complicité, elle se traduit comment ? Elle se traduit dans des activités qu'on fait ensemble. C'est un peu ce que vous décriviez. C'est, c'est des garçons, des filles, garçons-filles.
Un garçon, une fille.
Un garçon, une fille.
Oui, je fais énormément de choses avec mes enfants.
Est-ce que la mère met des bâtons dans les roues à ça, quand vous faites toutes ces choses, comme vous dites ?
Alors, en ce moment, non. Ouais. Enfin, plus, parce
qu'elle a vu que vous vous imposiez.
Depuis un an et demi, là, je m'impose vraiment fortement. Au début, j'avais tout un tas de remarques, et notamment, enfin, quand ils étaient tout petits, le fait de les prendre dans les bras, ça dérangeait ma femme. C'est-à-dire que j'avais toujours des...
Allô ?
Je me rappelle qu'un jour... Oui, allô,
oui. Ah oui, j'ai cru que vous avez perdu.
Donc, je me rappelle qu'un jour, je rentrais du travail, ma fille ne marchait pas encore, est venue simplement ramper jusqu'à mes pieds pour que je la prenne dans les bras. Et ma femme, la première remarque, c'était « Ah, tu vois, tu passes ton temps, tu passes ton temps à leur faire des câlins, c'est quand même pas normal. Donc, c'est vraiment... »
Mais ça, c'est passé maintenant.
Ah maintenant, parce que j'ai envie de dire que de toute façon, je n'écoute plus. C'est comme le fait de réveiller les enfants. Pour ma femme, c'était quelque part insupportable que je réveille les enfants le matin. Et maintenant, donc, encore une fois, je passe en force, c'est-à-dire que je n'écoute plus. Je n'écoute plus ma femme. Donc,
Écoutez. Vous vous écoutez au lieu d'écouter votre femme.
Voilà. Et le problème de...
Oui. Quel problème ça pose ? Oui. En quoi c'est un problème pour vous de vous écouter puis écouter votre femme aujourd'hui ?
Eh ben, c'est un problème parce que ça correspond pas déjà de mon désir de couple. Pour moi, j'aime bien.
Ça, je comprends. Oui.
Sont décidés d'un commun accord. Là, j'ai l'impression, je vous dis, d'être un dictateur, de faire ce que j'ai envie de faire. Parce que, comme je vous le disais, j'ai l'impression maintenant de toute façon d'avancer dans la direction où j'ai envie d'avancer, quel que soit ce que pourra penser ma femme.
Ce qui est très intéressant, et je pense que ça y est, vous avez mis le doigt sur effectivement en quoi c'est un problème pour vous, Pascal, c'est pas tant la façon dont vous conduisez avec les enfants, en fait, le véritable problème. C'est, vous l'avez très bien dit, ça correspond pas à mon désir de couple. C'est-à-dire qu'en étant le père que vous avez envie d'être, du coup, mais même avant, vous n'étiez pas dans le couple que vous désiriez. Alors, est-ce qu'avec le temps, je ne sais pas quel couple vous avez l'air de dire que c'est très tendu, est-ce que vous pensez qu'en occupant comme vous l'occupez votre place de père, est-ce que vous imaginez qu'il soit possible de retrouver un couple avec un peu plus d'équilibre ? C'est-à-dire qu'il est possible, c'est une hypothèse que je fais, c'est que votre épouse, voyant et constatant la place que vous prenez, ça peut aussi Alors c'est très inconscient, pas qu'elle le montre, la rassurer. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de l'empêcher, par votre attitude, de vous attaquer ou de vous dégrader. Et vous lui apprenez, de façon encore très inconsciente, une forme de respect de l'homme, peut-être du père, du frère, j'en sais rien, je ne connais pas son histoire. En tout cas, il y avait quelque chose avec l'homme dans son histoire de femme. Et vous, dans votre attitude, vous, ben, ce qu'on dit, imposez un respect. Alors, c'est sans doute assez nouveau pour elle. En tout cas, là, manifestement, elle se tait. Mais il est possible, et ce serait formidable, que, baissant les armes, elle découvre tout d'un coup un homme vraiment présent et que vous arrêtiez d'être dans la tension. C'est-à-dire qu'elle puisse être vraiment dans l'amour avec vous et atteindre le couple que vous désirez. En tout cas, il y a plus de chances dans l'attitude que vous avez aujourd'hui que dans l'attitude inverse. Hein. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Est-ce qu'il y a des signes de ça ?
Oui. Alors moi, si vous m'aviez posé la même question il y a un an, je vous aurais dit oui.
Enfin,
C'était d'ailleurs un peu
le pari, un peu.
Le pari, effectivement. Ouais. Depuis, non, parce que en fait, comme vous disiez, maintenant j'ai en moi une colère par rapport à ma femme qui est très très importante, et des fois cette colère sort devant les enfants.
Vous avez inversé. D'où le dictateur dont vous parlez. Ça y est, j'ai compris.
Voilà. Ouais, d'accord. Et donc, quand je me suis aperçu de ça, pour moi, c'est complètement nouveau parce que je suis issu d'une famille où il y avait une grande confiance, j'ai une très grande complicité, donc j'ai deux frères, tous mes amis sont des... Enfin, j'ai pas énormément d'amis, mais c'est tous des gens d'une confiance absolue. J'ai pas du tout, cette confiance avec ma femme. Comme je vous le disais, là, maintenant que je vois la colère qui commence à sortir, j'ai décidé d'engager une procédure de divorce avec ma femme, où je lui ai annoncé, ça faisait quelques temps que je la mettais en garde, mais quand je me suis aperçu que je pouvais montrer à mes enfants un visage, ce visage justement...
Que vous n'aimez pas, enfin que vous ne voulez pas avoir, voilà.
Que je ne veux pas avoir,
voilà.
Pour moi c'était trop.
D'accord.
J'ai dépassé mes propres limites, et c'est pour ça qu'après, depuis octobre, j'ai décidé d'arrêter complètement, parce que j'ai plus d'espoir, j'ai plus du tout d'espoir dans une prise de conscience de ma femme, qui a des choses qui sont très très loin de la norme. Dans notre couple. Comme je vous le disais, notamment, on reçoit... ça n'arrive pas de recevoir des amis...
Si vous le proposez ou si vous l'imposez. Et ça, si vous l'imposez, ça ne marche pas non plus. Quoi.
Ouais. Alors, j'ai pas envie non plus de l'imposer, parce que si c'est pour avoir une ambiance déplorable, mais je l'ai déjà proposé à ma femme à chaque fois, donc ça revient, c'est problème de dos, non, je ne peux pas, car j'ai des problèmes de dos.
Elle dit autre chose quand elle dit ça. Hein, elle dit autre chose. Elle a son... Qu'est-ce que vous comprenez, elle, de ces, entre guillemets, problèmes de dos ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se joue sur le plan psychique pour elle ? Avec quoi elle est si mal, finalement ? Qu'elle ne s'avoue pas ?
Ouais. J'ai un problème par rapport à votre question. C'est que je suis... Je suis assez terre à terre, je suis de la physique, moi. Donc je ne suis pas tellement psychologue, vous pourrez toujours me récurrer.
Non, mais c'est ce que vous sentez, c'est ce que vous ressentez.
Alors ce que je sens, c'est qu'effectivement, ma femme porte sur elle un passé lourd, en fait.
D'accord.
Dont elle a pas souvent parlé avec moi, mais je le sais quand même, notamment pour avoir discuté avec sa sœur. Elle a un passé de maltraitance, en fait. Elle avait une mère maltraitante.
D'accord.
Et c'est pour ça aussi, parce que moi, je sais qu'on est allé voir un certain nombre de fois des psychologues de couple pour essayer débloquer la situation. Ça n'a jamais tellement marché. Je me rappelle déjà être allé voir un psychologue de couple et quasiment éclater de rire quand j'étais en train de lui raconter une partie de ce que je vous ai raconté, parce que je me disais, mais si j'entendais un ami me raconter ça, je lui dirais, mais pars en courant, c'est pas possible cette vie. Et moi, ce qui m'a toujours retenu, notamment depuis la naissance des enfants, c'est bien évidemment les enfants, et puis il y avait aussi ce fait que je sais que ma femme un passé relativement lourd et vous vous prenez toujours à espérer pouvoir l'aider quand même. C'est pour
vrai,
ça que je suis rentré entre guillemets dans son jeu au départ. Mmh. Ça m'a amené bien loin de ce que je suis. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai dû essayer de reprendre le contrôle des choses parce que j'étais dans une position en fait, qui ne correspondait pas à mes envies, enfin, à ma façon de voir un couple. Mais maintenant, enfin, j'ai pris conscience que je ne peux pas aider ma femme et je ne peux pas continuer à rentrer dans le jeu de ma femme, sauf à me détruire moi-même.
Ouais, bah vous pouvez, c'est sûr, on peut pas sauver l'autre, vous pouvez pas ôter sa souffrance ou ses difficultés. Mais par contre, si elle en avait été d'accord, parce qu'on est toujours deux dans une relation, être une forme de soutien pour autant qu'elle vous donne aussi cette place-là. Ça, c'est la place que vous avez voulu prendre à ses côtés, mais c'est celle qu'elle vous a pas donnée. Donc ça peut pas marcher. Si elle vous la donne pas, vous pouvez pas la prendre.
Alors peut-être qu'elle me l'a donné et que je l'ai pas vu, que j'ai pas, parce que ça aussi je suis parfaitement conscient que mon comportement n'est pas non plus un comportement idéal et que j'aurais dû mettre le holà bien avant, mais peut-être plus doucement, en y mettant plus d'efforts, parce que là j'ai accumulé.
Oui, vous faites un apprentissage. Oui, vous avez accumulé de la colère, c'est ça que vous dites, ouais.
Ah bah ça on peut le dire clair.
Mais la colère, j'ai l'impression que avec cette demande de divorce depuis le mois d'octobre, elle est en fait à la hauteur plus que de signer une déception, une impuissance que signe souvent la colère chez vous, elle signe une déception. Pour vous, elle est à la hauteur de la déception et de tout ce que vous avez imaginé de possible et qui petit à petit s'effondre malgré tout l'investissement que vous y mettez. J'ai l'impression qu'elle traduit ça, cette colère, contre elle. C'est-à-dire, c'est un peu toi qui nous as mis en échec, alors que j'aurais tant voulu que ça marche. Elle dit ça, cette colère, non ?
C'est quelque part ce que je pense.
Oui.
Alors, encore une fois, je pense que si vous demandiez à ma femme, elle aurait une toute autre interprétation. Mmh. Mais
la thérapie de couple n'a pas permis de se parler de ça,
non,
quand vous dites
non,
elle aurait.
Non. La thérapie de couple, en fait, on allait voir pourtant trois, quatre psychologues de couple, et je sais qu'il y en a une qui nous a même dit, écoutez, j'abandonne avec vous. Le mieux, c'est quand même que vous engagiez une procédure de divorce.
Ah oui, carrément. Parce que, abandonner, pourquoi ? Parce qu'elle sentait qu'il n'y avait pas de volonté équivalente de part et d'autre. Ça peut être ça. Il y en a un qui traîne l'autre, oui.
Quand cette psychologue nous a dit ça, ma femme a voulu changer, donc on n'est pas allé tellement plus loin dans la discussion avec cette psychologue. Mais donc je pourrais pas vous en dire plus. En tout cas, ça a été échec sur échec. Mais par contre, je prends aussi ma responsabilité dans les échecs parce que j'avais clairement dit que j'avais pris assez sur moi et que je pouvais pas plus prendre. J'étais tellement loin de ma ligne de vie, de ce que je suis, que je ne pouvais pas en plus reculer. Je ne pouvais pas encore faire des compromis.
Non, mais ce n'était pas ça le sujet. Enfin, ce n'est pas ça le sujet entre vous. Ce n'est pas le compromis. C'est que chacun puisse entendre l'autre. On n'est plus dans le cadre du compromis et il me semble que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de quelle façon vous pouvez l'écouter et de quelle façon elle peut vous écouter. Moi, j'ai l'impression que chacun est sourd à l'autre. Donc, une question de compromis, là. C'est une question de surdité totale. Alors, il y a Elisabeth qui demande quelle est la réaction de votre femme depuis la demande de divorce.
Alors, la réaction de ma femme, je pensais, très honnêtement, quand je lui ai imposé ça aussi, je pensais que ça allait la faire réfléchir. Enfin, qu'elle allait prendre conscience qu'il y avait quelque chose.
Vous pensiez créer un peu un électrochoc, ouais.
Voilà, un électrochoc. Mmh. Ça n'a pas du tout marché comme ça. En fait, quand je lui ai annoncé ça, donc elle allait voir un avocat de son côté aussi pour lancer rapidement une procédure, pour me court-circuiter, pour aller un peu plus rapidement que moi. Bon, c'est pas très grave d'ailleurs, ça.
Ah, elle est allée déposer une procédure.
Voilà, donc quand je lui ai annoncé
c'est
ça, donc voilà.
Ça dit.
Et par rapport à ça, après, mon gros souci, je suis très très proche de mes enfants, ça va être d'obtenir la garde partagée de voilà, des enfants. Ça va être ma bataille pour les, les prochains temps. Mais voilà la réaction, en fait.
Elle est énorme, sa réaction, Pascal. Elle dit, elle signe vraiment son intention de. Il y a une histoire de lutte de pouvoir et de territoire entre elle et vous. En fait, votre couple, c'est que ça, quoi. C'est pas de l'amour, hein, d'ailleurs. Le contraire de l'amour, c'est le pouvoir. Et c'est peut-être ça que vous ressentez, qui fait que c'est douloureux pour vous et que vous appelez ce soir, qu'on dit j'ai l'impression d'être un dictateur, mais ça me ressemble pas, c'est pas moi. Parce qu'en fait, dans sa façon d'être par rapport à une forme de pouvoir, elle vous oblige à le prendre. Alors que c'est pas vous, enfin, comme si ça vous amenait à être quelqu'un que vous n'avez pas envie d'être, mais que c'est de la survie. Enfin, c'est ce que vous faites pour y arriver.
Voilà,
ouais, c'est ce que je comprends.
Pour moi, c'est de la survie. C'est que encore une fois, je suis tellement loin de ce que je suis que je vis mal les choses.
Et vous dites qu'elle, elle a une histoire de maltraitance dans son enfance. En fait, c'est vous qu'elle maltraite aujourd'hui. En fait, elle soigne sa maltraitance passée dans une forme de maltraitance avec vous, en tout cas dans une forme de pouvoir.
Et ben ça c'est une question que je me suis déjà posée un certain nombre de fois. Je suis pas allé plus loin dans la réflexion, mais oui, c'est
ce que je comprends.
C'est effectivement le sentiment que ça me donne.
C'est quoi ? Il y a une forme de perversité dans ce que vous me racontez de sa part à elle. Je dis une forme d'eux, ça ne veut pas dire qu'elle est perverse. Hein. On peut avoir des comportements pervers dans la vie sans être quelqu'un de pervers. C'est deux choses différentes. Mais quand je dis il y a une forme de perversité, c'est que qu'est-ce qui signe la perversité dans une relation ? C'est la mise en échec de l'autre. C'est faire croire à l'autre que je suis d'accord pour qu'on s'entende bien. Si tu veux, on va avoir un thérapeute de couple. Oui, allons-y. Mais quand la chose se passe, au moment où ça se passe, tiens, comme par hasard, il y a une mise en échec, enfin non, il n'y a pas de hasard, une mise en échec du système ou de l'événement qui était censé arranger les choses. Donc c'est un peu, quoi que vous fassiez, ça ne marchera jamais. Mais ce n'est pas dit comme ça. C'est-à-dire, je vous prends l'exemple de la thérapie de couple, et c'est très symptomatique ce que vous me racontez, on va en voir un, on va en voir deux, c'est elle qui est d'accord, on change, etc. Mais au fond d'elle, profondément, et c'est inconscient, elle n'est pas d'accord pour que ça marche. Donc ça ne peut pas marcher. Donc quoi que vous fassiez, et c'est symptomatique l'histoire du divorce, vous déposez une demande de divorce, enfin vous décidez, vous la prévenez, et elle se précipite pour déposer la demande avant vous. Ça, c'est pour vous mettre en échec. Voilà. Donc, il y a un comportement, il y a une forme de perversité. Et là, on ne peut rien faire contre ça. Hein.
D'accord. Moi, la situation de mise en échec de l'autre, en fait, moi, je l'ai vécue il y a 3 ans maintenant de ma femme. Oui. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que je lui ai dit que je commence à réfléchir au divorce. C'est que j'avais une possibilité d'avoir une promotion dans mon travail.
Oui.
Et ce qui nécessitait quand même un certain investissement, de monter des dossiers, des projets. Oui. Et je sais que lorsque j'ai monté mon projet, la veille de rendre mon projet, ma femme m'a demandé d'abandonner. Elle m'a dit clairement, je voudrais que tu arrêtes. Et c'était la veille, et moi j'avais le soutien de tous mes collègues au boulot pour avoir cette promotion. Mmh. Et là je me rappelle que j'ai claqué l'ordinateur, j'ai dit écoute, ok, j'arrête. Et après c'est vrai que dans la nuit je me disais que c'est quand même dommage, il me restait une page à écrire sur un projet d'une quarantaine de pages. Mmh. Donc j'ai terminé mon projet quand même dans la nuit, je l'ai envoyé. Et ensuite, même chose, c'était en 2 étapes. Ensuite, j'avais un oral par rapport à ce projet. Même chose, la veille de l'oral, elle m'a demandé d'arrêter, de ne pas aller au concours.
Et, sous quel prétexte ?
Le prétexte est toujours le même, c'est qu'elle était malade. Ah. Elle était malade et que je ne pensais pas à elle et que je pensais plus à ma promotion.
D'accord. Donc, sa maladie à bon dos. C'est sans jeu de mots, mais il y a un côté comme ça.
Alors, je me suis quand même présenté à ce concours. Et je sais qu'en rentrant du concours, ma femme m'a mis sous les yeux un bulletin d'analyse, un médical, où il y avait, je ne me rappelle plus, quel marqueur qui était légèrement en dessous de la moyenne.
Mais en fait, elle vous signifie que vous la rendez malade. C'est ça qu'elle vous signifie.
Elle m'avait dit, tu vois, tu n'as jamais voulu me croire, j'étais malade, regarde, la preuve est là.
Oui, c'est ça.
Et je lui dis, écoute, je vais me renseigner, donc tu me laisses ton truc, je vais me renseigner. Je suis allé me renseigner auprès d'une infirmière, et là, il est parti dans une colère terrible en me disant que c'était strictement anormal d'aller, de prendre son certificat, enfin, son analyse et d'aller me renseigner, alors que je lui avais clairement dit d'ailleurs. Et voilà, c'est toujours la même manipulation, c'est-à-dire, tu vois, t'as fait ça pour toi, mais t'as oublié ma maladie. Mmh. Et ça, le coût de la maladie, c'est...
C'est, oui, parce qu'elle vous rend responsable de sa maladie. Elle ne prend pas sa responsabilité.
Disons qu'elle me culpabilise avec sa maladie.
C'est-à-dire que finalement, si elle est malade ou si malade que ça, c'est votre comportement. Mais là aussi, on est dans un comportement et un mode de perversion. La personne ne prend absolument pas la responsabilité de ce qui lui arrive. C'est toujours la faute de l'autre. On s'arrange pour quoi qu'il arrive, c'est de la faute de l'autre. Si la thérapie ne marche pas, c'est la faute du thérapeute. Si elle est malade, c'est de votre faute. C'est que tout ce qui lui arrive ne vient jamais d'elle. Donc, elle ne peut pas donner des réponses à ce qui lui arrive, puisque c'est vous. C'est ça, être responsable, c'est donner des réponses. C'est vous qui êtes censé donner une réponse à ce qui lui arrive. Or, ça, ce n'est pas possible. Hein. On ne peut pas prendre la responsabilité de quelqu'un d'autre dans ce qui lui arrive. Alors, vous pouvez évidemment être là, être soutenant, être dans l'empathie, tout ça. Et je sais bien que vous le comprenez, ça. Mais pas faire en sorte qu'elle ne soit pas malade. Ça, c'est juste impossible. C'est son histoire avec sa vie et son corps. Mais dans tout ce que vous décrivez, Pascal, il y a énormément de perversité. Alors, peut-être que vous, c'est un peu nouveau parce qu'on a tendance effectivement, et d'ailleurs dans cette antenne, dans des journaux, dès qu'on parle de rapport de perversion, on est toujours dans l'inverse. Et c'est toujours un peu l'homme et la femme victime. Et je trouve assez touchant, je vous remercie de votre appel ce soir, parce que vous avez l'air de dire, est-ce que moi c'est normal ? Parce que c'est moi qui ne vais pas bien, est-ce que finalement je ne serais pas aussi un affreux comme d'autres dont j'entends parler sur l'antenne ? C'est un peu ça votre question.
C'est exactement ça.
Et c'est pour ça que je dis que c'est d'autant plus touchant que, vous savez, les personnes qui doutent d'elles-mêmes, qui se mettent en abîme, qui comme ça sont en plein questionnement tout le temps, c'est des très belles personnes parce qu'elles sont dans une honnêteté totale, voire philosophique face à la vie. Ceux qui s'en posent jamais, qui doutent jamais d'eux-mêmes, c'est très violent, hein, humainement, on connaît, voilà, et c'est un peu votre femme, c'est un peu les gens dans des modes dits pervers, c'est aussi des personnes un peu lâches, par absence de courage, ou trop victimaires et puis qui accusent la terre entière de leur malheur. Bon, ceux-là ne doutent pas de grand-chose. L'imposteur, le syndrome de l'imposture, on sait très bien que les imposteurs ne se demandent jamais s'ils sont eux-mêmes des imposteurs, puisque tout leur système de croyance repose là-dessus. Alors, je ne cherche pas du tout à vous rassurer, hein. Je cherche, enfin un peu quand même, mais je cherche surtout à vous rassurer dans le sens où à vous mettre un peu les points sur les i pour vous enlever, parce que vous voyez qu'à bas bruit, ça marche quand même son système, parce que finalement, votre honnêteté, votre loyauté, votre envie que la vie soit belle, parce que j'allais dire, bizarrement, on est toujours piégé par notre plus beau côté dans la vie. Je ne sais pas si vous me suivez. Quand je dis on est piégé par notre beau côté, quand on a envie que la vie soit belle, que les gens soient bons, que les gens soient gentils, on met beaucoup d'énergie là-dedans. Et quelquefois, c'est pas le cas, parce que ça, c'est la réalité. Et quand je dis on est piégé, c'est que tout d'un coup, patatras, tout s'écroule. Et vous, c'est un petit peu ce qui se passe. Et je suis heureux d'être le père de mes enfants. Et en même temps, j'aurais tellement voulu que mon couple marche et que tout ça fonctionne. Et votre envie, votre désir de beauté, de bon, de douceur, de tendresse, d'amour, de tout ce que vous voudrez, se retrouve mis en échec par elle. D'où la colère noire et puis surtout une immense tristesse et un questionnement de se dire, bon, et moi, quelle est ma responsabilité là-dedans ? C'est peut-être de ma faute, si.
On dit d'ailleurs assez souvent que la responsabilité est toujours partagée.
Oui, alors, elle est partagée dans le sens où chacun est 100% responsable de la relation. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas moitié-moitié. C'est pas vous la moitié, elle la moitié. Chacun est 100% responsable. Ça veut dire que chacun détient des clés. Mais quand on dit responsable d'une relation, c'est est amené à répondre de la relation en fonction de sa personne et donc de faire des choix. Être responsable d'une relation, ça peut être de décider de quitter son conjoint parce que je prends ma responsabilité d'être ou je me sens en échec. Enfin, je reprends ce qui vous arrive à vous et donc je décide d'arrêter. Là, vous êtes 100% responsable de votre partie dans la relation quand vous faites ça. De la même façon que quand vous acceptez d'aller voir un thérapeute de couple, bah, vous êtes 100% responsable de votre décision d'y aller et de l'intention qui vous habite à l'intérieur de vous, de la même façon qu'elle aussi. Vous ne pouvez pas savoir si pendant ce temps-là, votre conjoint, votre femme en question, elle y va en fait avec une intention cachée et biaisée, très certainement inconsciente, de mise en échec, parce qu'elle, elle a déjà décidé que ça ne marcherait jamais. Mais ça, vous ne le savez pas. Hein. Vous vous en rendez compte peut-être sur place en disant « bon, c'est bizarre ça ». Donc, c'est ça, chacun 100% responsable, c'est que chacun est responsable depuis soi. Et puis, dans la relation, on est très, très nombreux. Hein. On est bien plus que trois, on est facilement une dizaine, parce qu'il y a vous, il y a elle, il y a nous, il y a vous envers elle, elle envers vous, le nous envers moi, le moi envers nous, le toi envers soi. Enfin, je pourrais tous vous les détailler, mais on est assez nombreux au sein d'une relation de couple, parce qu'il y a plein de liens en fonction de la situation où on se place.
Mais par rapport à ce que vous dites, moi j'ai quand même l'impression, enfin voilà, oui. Moi je me vois à la face, mais j'ai quand même l'impression que lorsqu'on nous fait aller voir un psychologue de couple, ma femme y allait de manière très positive. C'est-à-dire que
Mais qu'est-ce qui s'est passé sur place? Qu'est-ce qui s'est passé pendant? C'est ça qui compte, la seule chose qui compte. Qu'est-ce que...
Moi, ce que j'aimais bien, c'est que c'est-à-dire qu'on pouvait discuter logiquement, parce que quand j'étais simplement avec ma femme, j'ai fait des propos que j'estime délirants. Et donc, en fait, moi, ça me faisait beaucoup de bien, parce que voilà, on arrivait avec une personne tierce à pouvoir expliquer les choses calmement. Mais je veux dire que dans la pratique, ensuite, quand on revenait à la maison, rien n'avait changé. Il n'y avait pas d'amélioration. Mais par contre, j'ai quand même l'impression que...
Et vous n'arriviez pas à poursuivre l'échange une fois rentré à la maison?
Non, on n'y arrivait pas. Donc j'ai sûrement aussi ma part de responsabilité.
Et alors pourquoi c'était positif? C'est-à-dire que vous aviez le sentiment que pendant la séance de thérapie, pour une fois, il était possible de se parler. Donc ça, en soi, c'était positif. Oui, c'est ça.
Tout à fait, parce que sinon, j'avais que des propos...
Du silence, du silence.
Non, pas du silence, non, c'était...
Des propos négatifs.
Des propos, enfin,
alors,
c'était...
Moi, j'ai une question. Elle n'était pas en train de jouer un masque devant le thérapeute du style « je suis une femme formidable et mon couple va très bien, c'est juste qu'on ne se comprend pas trop ». Elle avait changé d'attitude, alors?
Ben, je sais pas. Je pense pas. Moi, je pense d'accord. Je pense que ma femme, c'est une personne vraiment très sensible, hein, très très sensible à l'intérieur, mais qui a quelque part tellement souffert dans sa jeunesse.
Qu'elle se protège, qu'elle a un mécanisme de protection.
Elle s'est inventée une méthode de protection par rapport à sa mère, notamment
la maladie aussi en est une.
En racontant n'importe quoi, en passant son temps à mentir. Enfin, moi, le nombre de fois où ma femme m'a raconté des bêtises, et je pense que ce mode de fonctionnement, elle a pris l'habitude de l'avoir avec absolument tout le monde.
D'accord.
Mais sinon, enfin.
Donc pour vous, c'est un mode de protection qu'elle a. Et une forme de déni aussi, que finalement c'est de la faute des autres.
Ah bah là c'est c'est de la faute des autres ou c'est de ma faute.
C'est ça. C'est pour ça que je disais pas qu'elle était perverse, mais qu'elle était dans un fonctionnement, parce que le fonctionnement vise à vous mettre en échec, évidemment pas consciemment, mais c'est le résultat. Le résultat, c'est que vous fassiez, c'est ça.
Parce que sinon, moi, je pense qu'à l'intérieur, quand vous enlevez cette coquille, moi, j'ai déjà, avant la naissance des enfants notamment...
Vous étiez amoureux.
C'est quelqu'un de... Voilà, tout à fait. C'est quelqu'un de très, très sensible. Enfin, qui est... ce qui a fait, d'ailleurs, c'est en partie que je suis tombé amoureux d'elle, d'ailleurs. Mais il y avait tout ce côté, ensuite...
Est-ce que vous me dites là, Pascal, parce que je trouve ça assez émouvant, vous ne pouvez pas lui dire, vous ne pouvez pas lui écrire, vous ne pouvez pas vous parler de ça, vous ne pouvez pas lui parler d'elle?
Alors, moi, je l'ai déjà écrit tout un tas de choses. Alors, ça remonte maintenant, c'était il y a peut-être deux ans, trois ans. Je suis quelqu'un qui, je ne sais pas comment on peut dire, qui est relation au public, c'est-à-dire que je ne suis pas capable de faire des déclarations comme ça à l'oral, mais je l'ai écrit un certain nombre de fois.
Oui, oui.
mais maintenant, la colère que j'ai est tellement importante qu'elle masque tout. C'est-à-dire que la femme que j'aimais, je sais qu'elle est là encore, hein, mais tout ce qui s'est rajouté derrière... Avec
et alors, parce qu'en fait, c'est ça, le sujet, c'est votre colère. Et si vous alliez voir quelqu'un au sujet de cette colère pour voir qu'est-ce qu'elle contient de frustration. Ah, ok.
J'y suis allée.
D'accord.
Mais finalement, là aussi, on a tourné en rond parce que la psychologue m'a dit, écoutez, résolvez votre problème de couple, vous aurez tout résolu. Donc elle m'a dit, tant que...
Ah ouais, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui. Non, alors, parce qu'il a bougé le couple. En fait, c'est très très clair ce que vous expliquez. Vous parlez de quelle façon vous étiez amoureuse, ce qui s'est passé à la naissance, votre mise à l'écart, mise en échec, mais sans doute effectivement, et comme le dit très bien Jade, peut-être que pour elle, souvent la naissance d'enfant, alors surtout si elle a une enfance difficile, beaucoup de choses se rejouent, donc sans doute pour elle, un stress ou une façon d'être très différente après la naissance des enfants. Il y a quand même eu cette intention de thérapie de couple, cette intention que les choses s'arrangent. Vous dites à l'autre question que je vous avais posée en disant, est-ce qu'on peut imaginer que par votre nouvelle attitude de vous imposer les choses bougent, je m'avais dit, ça aurait été il y a un an, je vous aurais dit oui, maintenant c'est plus possible parce que je suis trop en colère. Donc là, on arrive à une impasse, parce que la colère est une forme d'impasse, qui dit, j'ai regardé partout, j'ai tout fait et je me sens très impuissant. Moi, j'ai l'impression que votre colère, et vous avez parlé de tourner en rond, elle vous remet à la case départ. C'est-à-dire, j'avais retrouvé de la puissance en m'imposant, mais au final, je suis toujours aussi impuissant.
Ah bah, pour faire changer les couples, les
c'est
choses
ça,
dans le couple,
c'est
oui,
ça,
oui,
c'est ça. C'est voilà, sûr. Voilà. En fait, c'est ça. C'est j'ai changé d'attitude, je me suis transformée, je me suis imposée en tant que père. J'ai retrouvé donc de la puissance par rapport à elle. Mais au final, et comme la colère, on est très en colère quand on est... c'est une émotion qui signale qu'on est empêché, frustré, impuissant dans une situation. On est toujours en colère contre une situation, contre quelque chose ou contre quelqu'un. Et donc, ça signale ça. C'est-à-dire qu'elle revient en force parce que c'est comme si vous avez fait tout un chemin qui a bouclé une boucle et qui dit « mais enfin, je me retrouve un petit peu ». Alors, très différent parce que vous avez quand même réussi à prendre cette place de père, mais il y a un côté retour à la case départ, quoi. Ou empêché, en tout cas.
Ouais. Il y a un côté, peu déchiré.
Alors, ce qui est intéressant, c'est, on retrouve au même endroit, c'est « elle m'empêche de ». Alors, l'autre question qui me vient, c'est quel pouvoir vous lui donnez encore qui fait qu'elle vous empêche d'être le mari ou l'homme que vous voudriez être ? Parce que, si je reprends votre cheminement en tant que père, de la même façon que vous êtes devenu le père que vous aviez envie de devenir, envers et contre elle ou avec elle, je vais pousser le bouchon un peu plus loin. Alors, c'est un peu plus difficile parce qu'elle est quand même là, mais qu'est-ce qui vous empêche de tendre et de voir ce qui se passera vers le mari que vous rêvez d'être et de voir ce que ça donne ? Vous imposez mon truc, hein, mais bon, je tente quelque chose. Ouais.
Oui, enfin, j'ai l'impression que ça ne marchera pas parce que dès que je... Alors, après, bien sûr, c'est mon interprétation, mais dès que je lâche un tout petit peu la pression, hop, j'ai l'impression que ma femme s'engouffre dans le petit espace que je laisse pour m'amener dans sa façon un peu, pour moi, délirante de voir les choses.
D'accord.
C'est pour ça que... Parce que j'ai essayé 2-3 fois de lâcher un peu du lest.
D'accord,
mais à chaque fois... Je vous donne un exemple. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai dit à ma femme, écoute, il faut absolument que tu arrives à te rapprocher de ta sœur. C'est quand même pas possible qu'il vous arrive. Elle s'entendait vraiment très très bien jusqu'à la naissance des enfants.
Ah, c'est
la
naissance qui a tout changé. Ouais.
Quand j'ai laissé cette petite porte, ma femme a tout de suite...
Allô ?
Tu comprends pas encore que c'est ma sœur qui bloque. Que c'est ma sœur
C'est toujours de la faute de l'autre.
Ouais.
On vous perd, pardon.
J'en fais quoi ?
Rien.
Rien.
Vous en faites rien. Vous en faites rien. Vous comprenez simplement qu'elle est dans le déni et qu'elle n'arrive pas. Et d'où son mal de dos, hein, qui est quand même très significatif, et ses douleurs. C'est trop difficile. On peut pas, voilà, analyser la personne qui n'est pas là, mais en tout cas, ce qu'on comprend, c'est qu'elle n'arrive pas à prendre, à porter une responsabilité de ce qu'elle ressent, de ce qui l'anime, de ses émotions, de peut-être ses colères, ses frustrations, ses tristesses, ses joies, enfin, qui elle est. Et ça, elle est un peu enfermée là-dedans, et donc elle en veut forcément à la terre entière, sans doute à elle beaucoup aussi, hein, elle doit être assez malheureuse. Et ça la met en fonctionnement, donc je reviens à l'aspect pervers, en fonctionnement pervers. Pourquoi ? Parce que c'est une conséquence, ce fonctionnement, qui met tout le monde en échec. La sœur, vous... Et ce que vous décrivez dans la demande de divorce, c'est absolument ça.
D'accord. Enfin, j'avoue, je ne suis pas tellement à poser des questions dans cette direction. Mais,
moi, j'ai l'impression que vous cherchez... Enfin, il y a quelque chose de sa culpabilité envers vous qui fonctionne beaucoup. Bien sûr que vous lui conservez de l'amour, c'est la mère de vos enfants, c'est la femme que vous avez aimée, mais peut-être de prendre et vous prenez la mesure de sa souffrance, et ça aussi c'est important, mais de prendre peut-être encore une mesure supplémentaire d'une forme, je dis une forme, voilà, d'incapacité à voir, à prendre, à bouger, pour l'instant en tout cas, et à être dans un immense mécanisme de défense et de résistance contre lequel vous pouvez absolument rien. Et je crois que vous, il y a une partie à lâcher qui est, voilà, une forme de deuil, de renoncement, de dire voilà, j'atteins ma limite là-dedans. C'est ce que vous avez fait avec le divorce, hein, la demande au mois d'octobre.
Mais ça a été dur. Ah effectivement, oui. Il y a eu, hein, une sorte de renoncement, et j'ai mis trois ans à prendre cette décision.
Je comprends. C'est pas ce que vous vouliez. Et je crois que vous êtes très en colère. Mais oui, vous êtes très en colère contre elle, parce que c'est pas du tout le couple que vous vouliez vivre. Et donc, forcément, vous lui en voulez. Vous lui en voulez parce que vous avez le sentiment d'avoir tout mis dans la balance, et qu'elle, elle veut pas. Et c'est comme dit le dicton, fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Et elle est, pour des raisons qu'on ne connaît pas, en train de jouer une autre partie. Donc oui, c'est triste, oui, c'est dommage, mais ça ne fait pas de vous quelqu'un d'épouvantable, ça fait quelqu'un mis en échec, et c'est très désagréable.
D'accord.
Et la responsabilité que vous avez, c'est qu'est-ce que je fais de cette mise en échec ? Elle est là, votre responsabilité, ce que vous faites d'ailleurs. Hein. C'est ça, être 100% d'accord, responsable d'une relation, c'est que vous prenez votre responsabilité. Aussi triste d'accord, qu'elle mais... soit. Ouais. Qu'est-ce que vous... Ouais.
J'écoutais vos dernières paroles. Enfin, je vais essayer de réfléchir à ce que vous dites là. Enfin, j'ai réécouté déjà.
Ouais. Moi, vraiment, Pascal, je vous encourage à vous faire confiance, parce que souvent dans la colère, on retourne l'arme contre soi, parce que dans la colère, on met beaucoup de culpabilité. Et c'est là où elle marque quand même un coup envers vous. Et attention, c'est pas elle qui a raison ou vous qui avez raison. C'est ça, 100% aussi responsable. C'est que chacun a ses raisons, donc a d'une certaine manière raison. Donc voilà, respectez-vous à fond, parce qu'il n'y a aucune raison que vous soyez très en souffrance par rapport à ça.
D'accord, ça me...
Ouais, c'est important, parce que moi je sens beaucoup d'honnêteté, de loyauté de votre part, ne serait-ce que dans la façon que vous avez d'amener les sujets, de les raisonner, de les présenter, donc ça c'est précieux, voilà, et ça c'est bien d'accord. Vous, hein. ça s'invente pas, quoi, c'est bien vous.
Écoutez, je vous remercie.
Merci,
merci
Pascal.
Le temps.
Ouais, bon courage à vous, hein. Merci encore.
Bonne soirée.
Merci, bonsoir Pascal. Bon. Et oui, c'était bien rapide, hein, cette émission. Voilà, c'est promis, on se retrouve demain soir à 22h30. C'est promis, pour cette fois-ci nos 2h30 de direct. Et merci à Charles ce soir et à Pascal pour nos échanges. Pour accompagner le marchand de sable, allez, une petite citation de Jean-Jacques Rousseau. Dites ce qui est vrai, faites ce qui est bien, ce qui importe à l'homme est de remplir ses devoirs sur la terre. C'est en s'oubliant qu'on travaille pour soi. Je vous souhaite une très très belle nuit et de beaux rêves et je vous laisse en compagnie de Ondelat. Et oui, c'est bien, Christophe Ondelat. Et Ondelat raconte. Ah bah c'est Pierre Belmar, me dit Fifi. Bon, mais ça a changé. Bah alors ce sera Pierre Belmar. Allez, je vous embrasse tous. À demain, 22h30.